dernière rencontre, donc au terme de nos deux journées. Ce matin, je vous rappelle que nous avons travaillé dans un sens précis, c'était à quelles conditions de fond et de forme et à quel prix la société française peut-elle être attentive aux idées des catholiques. Et donc, vous avez décliné ce questionnement à travers les ateliers dans lesquels vous avez travaillé en fin de matinée et en début d'après-midi. Aujourd'hui, donc, ce soir, nous allons tenter de faire émerger deux regards extérieurs donc de nous poser la question: les médias catholiques sous toutes leurs formes auront-ils toujours une audience et à quelles conditions? Et je me souviens que lorsque la question a émergé au sein du comité d'organisation, nous nous étions dit, on va demander à nos intervenants, est-ce qu'ils nous envient d'être des médias catholiques ou est-ce qu'ils nous plaignent d'être des médias catholiques? C'est-à-dire, est-ce que notre singularité fait de nous des projets d'avenir, des vecteurs d'avenir, ou est-ce qu'au contraire, elle nous condamne? Évidemment, la réalité n'est ni blanche ni noire, c'est plus compliqué, comme on a déjà dit, c'est un peu... Voilà. Alors, nous avons donc deux personnalités que nous remercions. D'une part, à ma droite, Étienne de Montetti, qui fait l'aller-retour dans la journée pour être présent parmi nous. Et donc, nous le remercions chaleureusement et sincèrement de sa présence. Étienne de Montetti dirige le Figaro littéraire. Il travaille depuis 20 ans au Figaro. Il a travaillé au Figaro Magazine. Il est actuellement directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Il a également piloté les pages débat et opinion de ce quotidien. Et aujourd'hui, ceux d'entre vous qui lisent ce journal connaissent sa signature, un billet quotidien autour d'un mot. Le mot d'hier, c'était visite. Et le mot d'aujourd'hui, c'est...
C'est François, évidemment.
Voilà. Pour les journées Saint-François de Sales, pour la rencontre des deux François, c'était évidemment François. Donc vous voyez déjà la tonalité, l'intérêt. Je voudrais mentionner le dernier livre de Étienne de Montetti, qui en a écrit plusieurs. Le dernier livre s'intitule « La route du salut ». Et il a été publié chez Gallimard et il relate sous forme romanesque, mais c'est un sujet d'actualité aussi, qui recoupe une partie de nos problématiques, les engagements de jeunes Français qui se sont rendus en Bosnie à l'époque où la guerre déchirait cette région, en Bosnie, et qui ont rejoint des rangs musulmans. Et donc, voilà, à la fois un travail d'enquête et un travail de romancier, ce qu'ils vont chercher là-bas. Donc, Étienne de Montetti va nous donc donner sa réponse à cette question. Est-ce que vous nous enviez ou est-ce que vous nous plaignez? Et puis, nous avons sollicité également un autre regard extérieur. Alors, vous allez me dire, il n'est pas très extérieur parce que vous l'avez vu depuis deux jours. Mon ami Jean-François Bouchard, qui est ici, qui préside au Canada le syndicat national de l'édition du Canada. Nous lui avons demandé de nous aider à réfléchir parce qu'il est quand même extérieur à notre problématique de la vieille Europe, même s'il est numéro 2 de Bayard Canada. Mais en fait, nous avions demandé au sociologue Dominique Volton de nous rejoindre et nous avons appris il y a quelques heures qu'il ne pouvait pas être présent. Et donc, nous avons demandé à Jean-François Bouchard de travailler un regard extérieur, c'est-à-dire je suis dans le monde anglo-saxon, même s'il a passé 4 ans dans ses jeunes années, il y a très longtemps, autour de l'Université catholique de Lyon, mais de nous dire comment est-ce que, vu de outre-Atlantique, notre affaire lui paraît, quelles sont les raisons d'espérer, les raisons de craindre. Voilà, le débat est posé, et donc évidemment, vous pourrez, comme durant ces deux jours, vous exprimer longuement et questionner nos invités. Et je commence par donner la parole à Étienne de Montetti. Est-ce que vous nous enviez ou est-ce que vous nous plaignez?
C'est une question très ouverte. Je ne sais pas si je vous envie ou si je vous plains. Ce que je sais, c'est que l'évolution de l'information et les questions que vous vous posez depuis deux jours et probablement depuis plusieurs années, ce sont celles que se posent tous les médias. Elles ne sont pas très très différentes. La spécificité catholique qui vous réunit ne vous empêche pas de vous poser des questions sur le média, sur le monde des médias. Et de ce point de vue-là, les questions que j'ai, ce sont les vôtres. Vers quoi va l'information, le monde médiatique? Il va largement vers une information indifférenciée. Et de ce point de vue-là, il me semble que les chrétiens et les médias chrétiens sont différents, ne serait-ce que par leur objet, la plupart du temps, qui ne touche pas l'ensemble de la société. Et cette différenciation par votre identité et votre vocation, je pense que c'est une chance quand même. Aujourd'hui, beaucoup de quotidiens, Le Figaro, s'interrogent et se dit, tiens, pourquoi des gens en France payent 1,60€, je crois, pour acheter un quotidien ? Quelle est la valeur ajoutée qu'on leur apporte ? Est-ce qu'elle est de l'ordre de la qualité, de l'expertise ? Est-ce qu'elle est de l'ordre de l'identité, socioculturelle, politique, intellectuelle, que sais-je, ou pas ? Et s'il n'y a pas de valeur ajoutée, pourquoi achèterait-on une information qu'on trouve par ailleurs gratuitement ? C'est le grand débat que vous avez certainement depuis plusieurs années, entre le web et le papier, le print, comme on dit en bon français. Donc, non, à partir du moment où vous avez une différenciation, vous êtes repéré, alors par qui ? Ça, c'est un autre sujet, et pourquoi faire ? Et donc, ça, c'est une vraie chance. Ça, c'est une vraie chance. Votre regard aussi sur le monde que vous avez ou que vous êtes quand même tenu d'avoir est certainement un caractère positif du fait de, quand même, de l'espérance que vous portez, dont vous êtes dépositaire, que vous êtes quand même tenu d'exprimer, de témoigner. Là aussi, je pense, est pour vous un atout énorme que vous seriez bien naïf de pas utiliser. Et qui est une vraie question aussi que se posent les journaux généralistes, de savoir qu'est-ce qu'on donne à ses lecteurs comme information qui rende compte de ce qui se passe dans le monde, mais qui fasse aussi passer un message. Et ces questions-là, on n'y répond pas toujours. Et il est probable que les médias chrétiens sont mieux armés que d'autres pour y répondre. Voilà.
En êtes-vous bien sûr ? C'est-à-dire que la question de la valeur ajoutée qui justifie l'achat, vous avez évoqué la qualité, l'identité, c'est évidemment des critères sur lesquels nous travaillons nous aussi, mais est-ce qu'au fond, le fait d'acheter de l'information, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître dans le monde du tout gratuit ?
Ça va disparaître pour l'information qui sera partout ailleurs, ça c'est sûr. Aujourd'hui, nos lecteurs au Figaro achètent rarissimement le journal pour être informés. Parce que cette information-là, ils l'auront eue par la consultation d'un site, le nôtre, dans le meilleur des cas, d'autres sites, un peu partout, n'importe où, parfois, hélas. Donc cette information de savoir qu'il y a 5 minutes, il s'est passé quelque chose, ça, c'est un combat qui est perdu. En revanche, plutôt que de savoir s'ils veulent comprendre, et comprendre selon leurs vœux, au fond, selon une grille de lecture qu'ils ont acceptée, alors là, ils acceptent d'acheter. Et ils acceptent même de rejoindre une communauté. Je pense que c'est un mot important dans le monde de l'Internet. Il n'est pas complètement étranger au monde catholique. Hein, la communauté, c'est un mot qui est monté en puissance toutes ces dernières années. Et ce sentiment d'appartenance et donc de compréhension et d'apport par un journal de clés, de valeur ajoutée, oui, ça c'est très important. C'est très important, mais il faut s'y tenir. Et donc, dans le traitement de l'information, être moins dans on va vous faire savoir qu'on va vous faire comprendre.
Alors ce matin, nous avons eu un grand débat sur la question des points d'attention, des points de précision qui devaient être ceux de la presse catholique. Certains disaient que ce que nous devons promouvoir, justement pour répondre à cette attente différenciée que vous évoquez, c'est bien la dignité de l'homme, notamment en matière d'éthique publique, justice, pauvreté, lutte contre la misère, développement, relations nord-sud, etc. Et d'autres disaient que ce qui compte, c'est la défense de la dignité, de la vie à naître, de la vie jusqu'à la fin. Et on sentait bien que les uns et les autres, ce n'étaient pas tout à fait les mêmes. Comment vous voyez cette ligne de tension entre nous ?
Mais je crois que je ne la vois pas. Je ne sais pas très bien quoi vous répondre. Je vais faire un aveu d'impuissance. Je ne sais pas bien, comme je n'ai pas assisté au débat, je ne vois pas très bien à quoi vous faites allusion.
Vraiment ?
Oui, vraiment.
Alors, disons les choses autrement. Nous avons eu le débat sur l'avortement au début de la semaine avec la marche pour la vie qui a eu lieu dimanche dernier. Nous avons par ailleurs un pape qui insiste beaucoup sur les perspectives donc, de justice sociale, de lutte contre la pauvreté, qui stigmatise une économie du déchet, une économie qui met à l'écart, etc. Selon vous, les médias catholiques sont-ils tenus, pour reprendre le mot que vous utilisez, d'insister sur les deux aspects, de tenir les deux aspects? Ou comment est-ce que ça peut se négocier tout ça par rapport aux attentes, justement, aux attentes de différenciation que vous évoquiez?
Je pense que les deux sujets sont abordables, parce qu'ils sont quand même unis par une réflexion qui est à peu près cohérente, un certain regard sur la planète, un certain regard sur l'homme. Qu'est-ce qu'il parle de l'option préférentielle pour les pauvres? C'est Paul VI ou Jean XXIII, je ne sais plus, mais ça, l'option préférentielle pour les pauvres, le pape François, me semble-t-il, le remet assez à l'honneur, ce terme, et ce terme de pauvreté, on peut l'appliquer à beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit l'enfant à naître ou la personne en fin de vie, ou des populations défavorisées. Tout ça, c'est sous le signe de la pauvreté, de la charité, etc. Ce sujet-là, les catholiques l'en parleront de manière très différenciée, ça c'est certain. Ça c'est certain, avec un regard qui sera le sien, qui ne sera pas celui de la presse profane, et probablement un regard que j'espère un peu désidéologisé aussi, parce que souvent, c'est des sujets dans lesquels... s'embarque la politique et les gens profanes vont juger les choses à l'aune quand même d'interventions publiques, souvent politiques. Les chrétiens, eux, ont un corpus, enfin une formation et des références qui ne sont pas idéologiques, qui viennent un peu d'ailleurs et qui les rendent un peu différents, me semble-t-il.
Lorsque nous avons préparé cette rencontre, vous m'aviez dit que vous étiez en recherche sur la notion d'information positive, de bonne nouvelle.
Oui.
Expliquez-nous.
Ben oui, j'y ai fait allusion tout à l'heure. Je suis sidéré dans mon propre journal. Ne tweetez pas, ne le répétez pas, on est entre nous. La difficulté de faire une manchette qui soit positive. On se fait l'écho du monde.
Et on le fait... L'écho du monde. Du monde, pas du monde.
Avec un grand thème, là, la planète. Pas un petit thème. le monde tel qu'il va. Et donc on va parler des conflits en Ukraine, des conflits en Centrafrique, du chômage, de la conjoncture économique, parce qu'on est obligé de le faire. Et donc on fait notre devoir de journaliste. Et tous les soirs, en fin de journée, je me surprends à voir une manchette dans laquelle il n'y a que des informations, pas négatives, mais alarmistes, voire inquiétantes, décourageantes. Et c'est un cliché de notre profession, hein. Vous en êtes aussi les témoins et les acteurs. Hein. Comment faire pour intéresser les journalistes d'abord et les lecteurs ensuite au train qui arrive à l'heure ou aux micro-réalisations qui donnent confiance dans l'homme, confiance dans la vie, et pas seulement des catastrophes ou du croustillant, je dirais, qui nous amuse, qui nous distrait, mais qui renvoie de l'humanité quand même un reflet un peu négatif. Ça a été la grande réflexion qu'on a eue il y a quelques semaines, là, à partir de la vie privée du président, une fois passé le cap de la curiosité, le cap de la, voilà, du côté badaud que chacun a d'entre nous. Quelle place donner à ce type d'information dans un journal, outre le fait que tout le monde le savait, comment le commenter, et puis aussi comment le canaliser, c'est-à-dire se sortir eh bien, du tintamarre général d'Internet qui devient fou, des médias d'information continue qui relatent cette histoire, et se dire comment demain matin cette information-là sera perçue par nos lecteurs, considérant que nos lecteurs sont comme nous, un peu schizophrènes. Et on a eu assez vite cette réflexion à la direction de la rédaction, de dire nos lecteurs, ça les a intéressés, ça les amuse. Peut-être même que certains ont acheté le journal qui relate les phrases du président de la République, mais ils vont nous reprocher de trop en parler. Parce que l'être humain
même
est ainsi
s'ils
fait.
En jouissent.
Même s'ils en jouissent. L'être humain est ainsi fait. Il y a une part de lui qui est badaud et une part de lui qui est citoyen, un petit peu plus responsable. Et donc, on a eu énormément de mal à faire la part des choses. Et nous a aidé notre ami et concurrent le journal du soir, qui lui, par un traitement très sobre, nous a donné la clé, qui était de dire c'est pas à nous d'y attacher trop d'importance. On peut y attacher de l'importance quant à ce que ça signifie de la politique de la France, des conséquences éventuelles sur un gouvernement, des conséquences éventuelles sur la conférence de presse du président qui avait lieu quelques jours plus tard. Ça, c'est une bonne réflexion, mais le fait en soi est une anecdote, mais il faut lutter contre la tentation, le tintamarre, l'étourdissement que peut provoquer une information. Voilà, c'est un combat. C'est même
donc ça, c'est ce que se dit le Figaro.
C'est ce que dit le Figaro, oui.
C'est ce qu'on peut se dire, nous aussi.
Oui, certainement.
Donc, notre différenciation à nous se joue de quelle façon ? Je reviens sur la même question. Parce qu'on sent que vous nourrissez une réflexion de fond sur la singularité de votre titre. Est-ce qu'au fond, pour se singulariser, est-ce qu'on doit faire la même chose les uns et les autres ? C'est-à-dire se démarquer du marché de l'info, du marché médiatique, cultiver les bonnes nouvelles. Vous avez évoqué avec moi aussi tout à l'heure la question de la lenteur. C'est quelque chose qui semble vous tenir à cœur. C'est quelque chose que nous aussi, on débat entre nous. Est-ce qu'il faut rentrer dans cette course à la vitesse permanente ou est-ce qu'il faut se retenir ?
Oui, c'est difficile tout ça. Oui, la lenteur, qui à mon avis est une vertu très importante, qui est un peu mise en difficulté dans notre métier, qui est quand même celle de la réflexion, de la distanciation. Les sites internet nous empêchent de travailler avec lenteur. Ça, c'est un combat qui actuellement est perdu. Et donc, on travaille sur deux jambes, je dirais. Il y a la première partie de nous-mêmes qui donne une information rapide, le plus rapidement possible, et avec les éléments du bord, ce qu'on sait. Et puis, on essaye après de prendre un peu de temps pour nourrir de manière plus réfléchie, avec des phrases mieux écrites, on corrige les fautes de français, et puis on essaye d'apporter une information plus nourrie, plus dense, plus profonde, on espère, notamment pour le journal du lendemain. Ça, c'est vrai que la lenteur est importante. Le problème actuellement, c'est qu'on est au stade où on a l'impression qu'il faut tenir toujours les deux bouts de la corde. C'est-à-dire qu'il faut être différent, mais dans le coup, il faut être lent, mais sur la brèche. Cette équation-là, elle est la même pour la presse catholique et pour la presse laïque et profane. J'ai l'intuition, pour avoir des amis qui ne sont pas forcément chrétiens, que ce décalage à l'égard d'une actualité folle et la lenteur ou même la sérénité dans le traitement de ton est appréciée, même de gens qui ne sont pas chrétiens. Régis Debray me dit, moi je lis La Croix parce que c'est un journal paisible. Voilà, il me le dit. Bon, alors je suis navré pour mon journal, mais je l'entends, ça m'intéresse.
Oh, il doit bien lire Le Figaro aussi.
Oui, mais ça l'énerve. Donc, il ne faut pas qu'il le fasse trop pour sa santé. Non, mais ça, c'est une phrase de la part d'un homme qui est un médiologue qui m'a énormément fait réfléchir. Avec ça, si j'annonce.
Paisible, c'est-à-dire ? Ça veut dire qu'il sème la paix ou qui.
Qui parle des choses avec paix, c'est-à-dire qui est pas forcément dans un engagement partisan, comme d'autres journaux dont c'est plus la vocation, et puis qui prolonge par des décalages d'angle, et peut-être le choix même résolu de tourner le dos à certaines informations pour en traiter d'autres, apaise le cœur inquiet de Régis Debray.
Et peut-être d'autres.
J'espère pour vous d'autres. Et c'est une vraie interrogation. Mais ce que je vous disais de la schizophrénie de nos lecteurs, elle est là. Et si nos lecteurs au Figaro demandent un ton décalé, je sais que les pages, par exemple, de Tribune, dont je me suis occupé longtemps, donc j'ai vu nos lecteurs, ils sont passionnés par ça parce que ça permet de parler des choses deux jours après, trois jours après, d'aborder des points de vue différents. Ils y sont extrêmement sensibles. Mais si on refroidit le journal, comme on le dit dans notre jargon à tous, si on refroidit le journal, ils nous le reprocheront aussi, en nous disant vous n'avez pas traité tel sujet qui est effectivement qui fait la une de tous les journaux télévisés. Ça, c'est certain. Et le lecteur chrétien, il est comme tout le monde, il veut être très au courant de ce qui s'est passé il y a 10 minutes. Donc il n'y a pas de choix radical, malheureusement, il y a concilier des contraires, certainement.
Alors, une dernière question, peut-être plus personnelle, mais peut-être tout aussi difficile. Vous êtes paroissien, vous appartenez à un diocèse. Supposons que l'évêque prenne contact avec vous pour vous dire, voilà, moi, je voudrais réfléchir à la communication du diocèse. Voilà, vous êtes face à lui, il n'y a pas de témoin, vous lui dites quoi ?
Je demanderai quelques jours de réflexion. Donc vous ne me les accordez pas, vous. Qu'est-ce que je lui dirais sur la communication? Ouh là là.
Vous avez besoin de temps pour penser, hein?
Ben oui, 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 oui. Moi, je suis un esprit lent, comme vous l'avez remarqué. Bon, je poserai question de savoir à qui il veut s'adresser, certainement. À ses ouailles qui sont assez informés. Ou est-ce que c'est à des gens qui ne vont pas à l'église? Enfin, je veux dire, on fera un travail de ciblage. Probablement aussi une réflexion sur le message qu'on veut faire passer. Sur le vocabulaire à utiliser, qui soit compréhensible par... les chrétiens pratiquants, familiers du jargon de l'Église, ou les chrétiens qui le sont moins, ou carrément les gens de mon département qui ne connaissent pas tous les termes que nous utilisons assez facilement quand on fait partie de la communauté chrétienne. Je pense que j'aurai toute cette réflexion avec lui. Oui.
Vous lui suggéreriez d'exister sur le print, sur le web, sur la télévision, sur la radio, en personne peut-être, voilà. De privilégier quel type d'exposition?
Oui, certainement le web et certainement un bulletin écrit pour une population qui n'a pas l'habitude du web et qui n'en a peut-être pas forcément envie. Certainement c'est de là. La télévision, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr, même pas pour une affaire de médias, mais c'est un média avec lequel je suis pas forcément familier. La radio, certainement, parce que c'est un média de proximité. Je voyais là dans le message du pape François pour les Journées mondiales de la communication, il évoquait la parabole du bon samaritain avec la proximité. Ça, c'est un mot important, à mon avis, pour nos médias. Les vôtres, le mien, la proximité. Est-ce que les gens veulent s'informer sur le lointain ou sur le proche? Voir le prochain. Le lointain, c'est pas forcément l'autre bout du monde, c'est une approche peut-être humaine aussi des sujets. Je sais que parfois nos lecteurs nous font des remontées selon lesquelles on est froid, c'est-à-dire on n'est pas soit incarné, soit proche, justement. Par exemple, ils nous demandent davantage de portraits de personnes qui font des choses. Je présume que c'est pas très différent de demandes, d'attentes que vous avez dans les médias qui sont les vôtres. Le prochain, le service aussi, qui va de l'horaire et du numéro de téléphone, voire de l'adresse du site, pour renseigner et aller au-delà de l'information et du commentaire, qui est bien, qui est parfois un peu abstrait, mais qui parfois ne s'achève pas. Je le vois pour le littéraire, les gens se moquent des magnifiques trois feuillets qu'on a fait sur un livre, et généralement ils confondent le titre du livre et le titre de l'article. Donc on a pris les choses en main devant cet aveu, j'avoue, cet aveu de qu'on était trop compliqué au fond dans notre approche. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le titre, la couverture du livre avec le titre, le prix, etc. Une pédagogie toute bête qui était il y a quelques années pour nous offensante. Hein, parce qu'on est des intellectuels, on est des écrivains. Eh bien non, les gens nous demandent un service hyper simple. Et là aussi, bon, et ben, il faut atterrir, descendre et les écouter, nous parler de grandes choses très très intelligentes. Puis au final, c'est ben, on a besoin d'un service précis. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai cherché pour un diocèse des horaires de messe et j'ai souvenir sur le site internet d'une complication qui ne m'encourageait pas à aller à la messe dimanche en province. Je me souviens très très bien.
Vous y fûtes finalement?
Oui, parce que j'ai un peu persisté, mais je ne suis pas sûr que tout le monde aurait fait comme moi.
Très bien, merci beaucoup pour ces regards. Je constate quand même en vous écoutant que les questions que vous vous posez sur votre journal sont les questions que nous nous posons pour nos journaux aussi, et que nous sommes en quelque sorte embarqués dans le même questionnement général, notamment dans le rapport au web, dans le rapport à l'immédiateté, au temps, à la proximité, à la différenciation, au regard qui est porté sur le monde. Je vois que toutes ces questions sont probablement le préalable à une survie commune, quelle que soit la nature du média.
Oui, parce que la technologie a pris beaucoup d'importance, et la technologie, c'est la même pour le média quel qu'il soit, chrétien, pas chrétien, journal d'information locale, nationale. Il y a des contraintes, il y a des espèces de lois d'airain qui ont été installées, notamment par l'irruption de l'Internet, et puis les grandes lois de la nouveauté à tout prix, la grande loi du tonitruant à tout prix. Mais c'est lié à l'Internet, hein, parce que le clic hein, l'idée qu'il faut être consulté très très vite, tout ça, ça formate notre information, donc on est largement tributaire de ce que j'appelle des lois d'airain. Et après, l'intérieur du contenu, que ce soit un contenu sportif, un contenu religieux, un contenu généraliste, un contenu local, c'est presque secondaire par rapport à cette aventure dans laquelle on est plongé, nous tous.
Très bien, il y aura probablement plein de questions dans la salle. Je vous propose de traverser l'Atlantique, de remonter quelques heures, quelques fuseaux horaires, et d'écouter le regard de notre ami Jean-François Bouchard, qui va nous dire, vu du monde anglo-saxon, est-ce qu'il nous envie ou bien est-ce qu'il nous plaint ?
Alors, merci. Alors, dans les nombreuses semaines que j'ai eues pour préparer mon intervention à cet entretien, j'ai tenté de... J'avais tellement de choses, n'est-ce pas, à dire, que j'ai tenté de m'attarder d'abord à la question qui m'était posée. Et donc, je répondrai en deux temps. D'abord, la première question, c'est sur y aura-t-il de l'audience ou pas? Et la deuxième question, si oui, si tant est que ma réponse serait oui, à quelles conditions? Alors, prenons la question à bras-le-corps dès le départ pour dire, êtes-vous à plaindre? Oui, incontestablement. Mais vous n'êtes pas tout seul, hein? Vous n'êtes pas tout seul. Pourquoi vous êtes à plaindre? Pourquoi nous sommes à plaindre? Essentiellement parce que on le sait, on l'a dit suffisamment, l'environnement technologique a bousculé considérablement les comportements, mais fondamentalement, il a surtout remis en question les modèles économiques de notre survie. Alors, ou bien dans nos médiations catholiques, je prends ce terme haïtien, parce qu'il n'est pas question que d'information, il y a question de communication, etc. On représente une nébuleuse assez diversifiée. Donc, dans ce monde de la médiation catholique, et du contenu et de l'information catholique, les modèles de base, c'est ou bien ce sont nos abonnés, ou bien ce sont des annonceurs qui, plus rarement, nous font vivre, ou bien ce sont des institutions qui nous soutiennent, ou bien ce sont des fondations, etc. Bon. Alors, sur les modèles économiques de base des médias, évidemment, tout le monde est ébranlé, partout sur la planète, sans exception. L'Amérique du Nord ne fait pas exception, bien au contraire, même l'Amérique du Nord a été ébranlée avant même que l'Europe le soit. Sur ces bases, je ne parle pas des bases économiques en général, mais bien celles des médias en particulier. Donc, on n'y échappe pas, et donc, qu'on soit catholique ou n'importe quoi, on est ébranlé parce que les modèles économiques sont ébranlés. On peut dire aussi qu'on peut remettre ou on peut douter que tous vont survivre parce que même pour les médiations qui sont appuyées à des institutions ou à des mécénats, ou etc., il n'est pas du tout sûr non plus que ça non plus va survivre. Donc, il y a une véritable crainte, il y a une véritable inquiétude qui est fondée. Nul ne peut dire aujourd'hui, tout le monde peut dire, et c'est vraiment facile, j'ai trouvé que ceux qui ont formulé la question étaient vraiment astucieux. Est-ce qu'il va rester une audience? Évidemment, pourquoi pas? Bien sûr, ça c'est la partie facile. Est-ce que nous, on va rester là pour servir cette audience? Là, c'est une autre affaire. Et c'est assez clair que nous ne survivrons pas tous. Je pense que ça, il faut se le dire. Et que, en fait, les individus, les personnes, etc., la vitalité, la capacité de résilience des individus, je n'en doute pas un seul instant, mais la capacité des institutions à poursuivre, c'est pas tous, en tout cas, et pas toutes. Je suis convaincu de ça. De toute façon, un certain nombre tombe au combat déjà. Et ce n'est pas terminé. En fait, je ne prophétise rien. Je décris une réalité en cours. Voilà. Prophétiser au sens très, très caricatural du terme. Hein. Bon. Ma théologie est loin déjà, vous voyez, c'est un peu approximatif. Alors, est-ce que, par contre, on peut dire que ce milieu est enviable? Alors, oui. Clairement. Pourquoi? Je dirais pour une seule vraie et bonne raison, c'est la capacité de durer. Et cette capacité de durer, elle a déjà été mise à l'épreuve. Donc, ce n'est pas... Les temps que nous traversons sont sans équivalent. Les défis auxquels nous faisons face sont sans équivalent. Je suis d'accord. Ceci dit, la capacité de résilience, la capacité de se relancer, la capacité de se réinventer, quand même, on a déjà donné. Hein? Donc, cette capacité de durer, cette capacité de persister dans le temps, elle veut dire quelque chose. Je vais prendre un exemple très concret qui ne concerne ni le territoire canadien ni le territoire français, qui se passe sur le territoire américain. Indice sympathique quand même que ça vaut la peine parfois de durer pour voir des choses comme celle-là. Il s'est passé il y a quelques semaines une annonce très anecdotique dans le domaine de la presse catholique américaine où celui qui est considéré par plusieurs comme étant le meilleur vaticaniste américain, John Allen, donc grand coup de tonnerre dans le petit monde médiatique américain, donc John Allen va quitter le journal dans lequel il travaillait depuis 16 ans maintenant, le National Catholic Reporter, qui est un journal indépendant catholique américain qui fait un excellent travail. Et il est recruté par le Boston Globe, donc un grand journal donc de l'Est américain. Et bon, alors ça, bon, en soi, qu'on prend quelqu'un, un grand professionnel, et qu'on mette la main dessus, qu'on sorte un gros paquet de fric, et qu'on... Bon, c'est ça la réalité. Bon, alors, on attire. Mais ce qui était intéressant, c'est dans le communiqué de presse du Boston Globe, où on nous annonçait avec, bon, avec, vous voyez, le genre américain, extrêmement fier d'aller chercher le plus grand vaticaniste américain. Hein? Et puis, un tout petit paragraphe, on disait, en même temps, M. Allen aura comme première responsabilité d'analyser la faisabilité d'une publication catholique autonome du Boston Globe. Alors, Boston, je vous rappelle que ce n'est pas n'importe où aux États-Unis. Hein? Et donc, c'est une ville importante, ville dans laquelle il y a une forte tradition catholique. Donc, vous voyez, la famille Kennedy, tout ça venait de là. Et, évidemment, qui a été un des lieux les plus affligés par les scandales de pédophilie. Bon, donc, vous voyez, un beau... Alors, la marque, on ne peut pas dire que la valeur sur le marché, la valeur de la marque catholique était au plus haut, disons, dans ce milieu-là. Donc, quand même, c'est intéressant de voir... Bon, alors, les observateurs disent tous... conséquence directe du Francis Effect, c'est clair. Donc, il y a un regain d'intérêt pour l'information du monde catholique. Et donc, ce magnat des finances, qui est le propriétaire du Boston Globe, qui n'est pas particulièrement, je vous le dis, là, c'est pas particulièrement une grenouille de bénitier, là. Il dit, tiens, il y a quelque chose là, puis il y a peut-être un marché là, et il y a peut-être un... Et il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Extrêmement intéressant. Parce que je suis ravi d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. C'est-à-dire que dans ce lieu, dans ce pays, où la presse est en grave, grave, grave crise financière, plus que partout au monde, eh bien, il y a quelqu'un là qui dit, il y a peut-être quelque chose dans ce monde qui se passe et qui vaut la peine d'être traité. Alors, c'est un peu anecdotique. On verra si l'analyse de faisabilité tient la route, mais ça reste quand même intéressant. Donc, cette sorte de permanence, de persistance dans le temps que nous nous donnons, elle peut ne pas, comment dire, la forme que nous lui donnons, elle peut être profondément modifiée, mais ce qui nous anime et la volonté d'y être fait en sorte que cette durée, quand même, elle vaut la peine et elle est possible. Alors, pour ceux qui vont durer, à quelles conditions? J'ai deux ou trois choses à dire, ce que je l'ai dit là. Hein? Et pour tous ceux qui pensent qu'ils ne vont pas durer, bien, écoutez, vous pouvez déjà aller prendre votre TGV et vous rentrer chez vous, ça va être... Ça va. Je ne vais pas vous affliger de propos qui sont bon, sans intérêt. Je n'ai pas de boule de cristal plus que quiconque, mais j'ai des convictions. Convictions comme homme d'édition et comme homme de presse, une conviction très profonde. Je suis sûr que rien ne va s'inscrire dans la durée qui ne soit pas crédible. Et s'il est une chose à laquelle je crois, c'est qu'il faut travailler soigneusement, qui que l'on soit, quelle que soit notre médiation, il faut travailler soigneusement notre crédibilité. Et la crédibilité, de mon point de vue, ça se compose de trois ingrédients: la rigueur, la liberté et la compétence. Alors, la rigueur, alors, quel vieux mot ringard, poussiéreux et tellement pas au goût du jour. Hein? Rigueur, on ne peut pas dire que c'est le mot. Si vous faites rigueur sur Google, je suis sûr que vous n'aurez pas 12 800 000 références. Bon, il y a sûrement quelqu'un, un petit malin, qui va le faire pendant que je parle, là, mais bon. Donc une rigueur qui n'est ni du rigorisme, ni une austérité, ni une tristesse ostentatoire. Hein? On s'entend bien. On a confondu malheureusement la rigueur et le rigorisme. La rigueur, c'est de faire son travail d'une manière exemplaire. C'est de maîtriser parfaitement ce que l'on fait, les contenus que l'on traite et les manières de les traiter et les médiations qu'on a entre les mains. Donc, cette rigueur, elle est extrêmement importante et elle peut être une de nos conditions d'inscription dans la durée. Et je le répète, cette rigueur, elle doit s'exercer autant dans la maîtrise des connaissances, de l'information, des matières, des outils et de la langue. Moi, je viens quand même d'un pays où le souci de la langue, c'est quand même pas une chose accessoire. Hein? C'est une question de vie ou de mort. Donc, ce souci de la qualité de la langue, il doit faire partie de notre rigueur. La deuxième condition, c'est la liberté. Alors, c'est un peu triste, mais je me sens toujours obligé de la qualifier, cette liberté, en la qualifiant de liberté responsable. Bon. Alors, évidemment, il y a des gens qui me voient venir de loin en disant, bon, dès qu'on met la liberté responsable, on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, bon, il faut user de sa liberté, mais il ne faut pas fâcher, il ne faut pas dire des choses qui vont froisser. Alors, ce n'est pas du tout la liberté responsable. Hein? La liberté responsable, c'est la capacité d'user de sa liberté et d'être capable d'en répondre. Alors ça fait toute la différence, parce que ça module un peu les transports dans l'expression de la liberté de pensée et d'opinion. Alors, on peut toujours exercer sa liberté comme ça, n'importe comment. Ça se fait ad nauseam sur les blogs, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez. Je veux dire, on en a là, je veux dire, à vomir. C'est pas de problème de ce côté-là. Alors, c'est de la liberté, la liberté responsable, c'est autre chose. On a eu un bel exemple ce matin, d'ailleurs, en ouverture de journée dans l'entretien, avec les deux journalistes qui étaient à table, qui se sont permis chacun d'exercer leur liberté. Et ils l'ont exercé d'une manière responsable, plus tard dans l'échange, en répondant de ce qu'ils avaient lancé, quand même. Alors, ça, je crois qu'il n'y a pas de crédibilité non plus sans exercice de la liberté. Et s'il y a quelque chose dont on est souvent suspecté, c'est de ne pas aller jusqu'au bout de notre liberté. Mais la modulation, c'est d'en être responsable. Et ça crédibilise quand même. La dernière chose, j'ai presque honte, mais c'est la compétence. Pas de crédibilité sans compétence. Alors, loin de moi l'idée d'estimer que dans la médiation catholique, il y a un déficit de compétence. Mais au cas où ça arriverait, j'aimerais attirer l'attention sur trois éléments. On peut être très compétent sur les sujets religieux, sur les thématiques religieuses, etc. Bon, soit. Je suis de ceux qui croient qu'aucune de ces réalités ne se tient en elle-même. Croire, c'est un verbe à l'infinitif qui demande constamment à être conjugué dans l'action. Donc, c'est bien d'être compétent sur les contenus religieux, mais une compétence pure sur les... j'y crois pas trop. Bon. Et il y a trois secteurs aujourd'hui, il y a trois domaines de compétences sur lesquels, en communication, dans tous les domaines de communication, je crois, on est attendu et notre crédibilité est toujours mise en cause. Dans le domaine de la science et de la technologie, dans le domaine de l'économie et des finances, et, pardonnez-moi de vous le dire, dans le domaine de la culture. Nous avons dans les milieux religieux, et les milieux religieux particulièrement qui s'occupent de communication, et je vais terminer là-dessus, ont à développer leur crédibilité en manifestant une véritable maîtrise, pas de tout, mais quand même d'être capable d'entrer sur le terrain de ce qui est de ce que sont en fait des lieux de dialogue, des lieux de recherche, des lieux de questionnement aujourd'hui, et il faut y être. Et ce n'est pas en y répondant avec un langage religieux à l'état pur que nous allons alimenter notre crédibilité. Je termine, j'avais annoncé ma conclusion, je termine avec une citation de Saint-Augustin. Je m'excuse, elle n'est pas de Saint-François de Sales, mais bon, rien n'est parfait. Une citation de Saint-Augustin que je traîne depuis 30 ans dans ma vie, et qui est un peu le leitmotiv de mon métier de communicateur et d'éditeur. Convaincre est un combat, toucher est une victoire. Je pense qu'il y a dans cette toute petite citation de Saint-Augustin l'essentiel du défi qui nous attend si nous voulons persister dans le temps.
Merci beaucoup. Heureusement que nous t'avons sollicité il y a plusieurs mois de cela. Alors, peut-être juste une précision, avant de donner la parole à Étienne de Montetti pour un éventuel commentaire. Juste une précision, lorsque tu as décliné la liberté responsable, tu n'as pas évoqué ce qui, lorsque j'étais jeune, il y a très longtemps, était une sorte de leitmotiv, c'est la liberté vis-à-vis de l'institution Église.
Pour moi, la liberté, c'est la liberté. Bon, je vois pas en quoi je modulerais la liberté par rapport à l'institution d'Église plus que je ne modulerais ma liberté par rapport aux positions sociales ou politiques. Je veux dire, si comme croyant, je décide de m'exprimer en contraste clair avec des idées dominantes au plan social ou au plan politique, et que je pense que j'ai les arguments et que je suis capable d'en répondre, je ne verrai pas en quoi je n'exercerai pas cette même liberté dans l'institution. Enfin, peut-être que un jour j'aurai des ennuis, mais bon.
Pour l'instant, tu es toujours vivant. Merci. Étienne de Montetti, souhaitez-vous réagir à ce tableau ?
Au prolongé, peut-être, parce que les mots de clé que vous avez donnés, rigueur, liberté, compétence, j'espère que tous les journalistes les ont au fronton de leur bureau. Il est possible que pour la presse catholique, il y a une part de pédagogie supplémentaire à faire dans l'expression des informations qu'elle donne, sans sous-estimer, me semble-t-il, le grand décalage culturel qu'il y a avec la société occidentale. Ça passe par le vocabulaire et ça passe aussi par une réflexion sur ce que c'est que la grille de lecture, je vais appeler ça la grille de lecture contemporaine, notamment quand il s'agit pour la société de comprendre ce qui se passe dans l'Église catholique et notamment au Vatican. Et c'est vrai que souvent on voit une grille de lecture communément admise. Elle est admise dans les rédactions d'ailleurs, généralement. Elle est admise au service politique, au service société. Et quand il n'y a pas d'informateur religieux qui connaît, c'est pas le cas au Figaro, on a un bon chroniqueur religieux, mais qui connaît cette spécificité de l'Église catholique, par exemple, ça peut créer des décalages. Les grands mots phares, je dirais, de notre société et que les journalistes utilisent comme vraiment des marqueurs de jugement, comme la démocratie, la parité, par exemple, la transparence, ce mot de transparence, qu'est-ce que ça veut dire quand il s'agit d'expliquer, je ne sais pas moi, le fait que le sacerdoce est réservé aux hommes ? L'élection d'un pape à l'aune de la démocratie, qui est un mot magique, on ne va pas discuter de la démocratie ici, mais qui est un mot qui, comme disait Paul Valéry, chante plus qu'il ne parle. La diversité, enfin, vous voyez tous ces mots. Et il y a un rôle que vous avez dans la presse catholique pour expliciter l'actualité, notamment l'actualité de l'Église, mais en intégrant bien, au-delà de votre compétence, de votre rigueur et de la liberté que vous avez, que c'est un univers qui peut être complètement étranger et que donc les Français, les gens qui suivent ces événements le font avec une grille de lecture commune, je dirais, à tous les sens du mot. Elle est commune à tout le monde, puis elle est un peu commune au sens un peu bas de gamme du mot. Ça fait que des événements comme ça d'église ont besoin véritablement d'une pédagogie dans leur explication. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais souvent ça me frappe. Je sais pas, l'élection du pape il y a un an, par exemple, cet invraisemblable phénomène qui fait que d'abord une élection survient sans qu'elle soit attendue, alors que toute élection est attendue, il y a des mandats qui prennent fin, et se met en branle un système aussi médiatique qui fait que très longtemps à l'avance, on en parle, déjà de 2017 pour la vie politique française et l'élection du président. Là, ça survient de manière mystérieuse, soit par une mort, soit par une démission. un conclave où des gens rentrent dans un lieu clos à l'heure de la transparence. Est-ce que l'opposé de la transparence, c'est le secret, voire la dissimulation ? Pour beaucoup de journalistes ou pour l'air du temps, c'est possible. Ça, c'est possible. Pour certains, c'est peut-être sûr, d'ailleurs. Une élection qui n'est pas au suffrage universel. Ça donne une singularité à cet événement, mais jusqu'au résultat. Maintenant, un résultat d'élection présidentielle, ça se fait, vous savez, avec un visage qui apparaît de manière tramée ou mosaïquée, là, je ne sais plus très bien comment on dit, à 20h01. Là, c'est une fumée dont la couleur, je le reconnais, est un peu trouble. On ne sait jamais très bien si c'est blanc, gris ou noir. Et il y a les caméras du monde entier qui sont suspendues. Il y a une singularité incroyable qui est à la fois une fragilité médiatique et une énorme chance. L'énorme chance, c'est que ça crée une fascination générale, mondiale, internationale, qui donne à la papauté une force incroyable, me semble-t-il, médiatiquement parlant, j'entends. Mais pour les médias chrétiens, ou pour les chrétiens à l'intérieur des médias, mais ça c'est encore un autre sujet, décrypter tout ça, ça demande un énorme travail qui oblige à se mettre un petit peu à côté de soi-même, à s'asseoir un peu à côté de soi-même pour se dire que tout ça n'est pas acquis, que le climat général, les comportements, les raisonnements, le vocabulaire qu'on a rendent ces phénomènes qui nous sont familiers si on est chrétien très étranges, très incongrus, très étrangers. Et vous savez très vite si cet événement n'est pas bien décrypté, si je sais pas une nomination dans l'Église ou une décision de l'Église n'est pas comprise, elle peut être très vite mal jugée, voire détestée. Je me souviens très très bien d'un phénomène qui avait eu lieu il y a 20 ans, c'est l'éviction, de Mgr Gaillot de son diocèse. À l'époque, si ma mémoire est bonne, tous les chroniqueurs religieux, habitués du sujet, étaient à Manille pour des journées mondiales. Autrement dit, ce sujet a été largement traité dans les médias profanes, par un peu les gens qui étaient de permanence ce jour-là. Le décalage entre la réalité de cet événement, dont on peut parler des heures entières à l'intérieur de l'Église catholique, la position de Mgr Gaillot, et leur perception des choses, ça a été assez ravageur. Et j'ai souvenir très très bien d'une grille de lecture, alors là, communément admise, qui s'était installée, à tort ou à raison, là aussi c'est à discuter, c'était l'individu contre l'institution. Ça c'est quelque chose de classique. Ça va être dans le monde de la justice, dans le monde de l'armée, dans le monde de l'Église, dans le monde de l'entreprise, l'institution, l'individu, qui est un schéma classique qui fonctionne assez bien. Le petit contre le grand, le grand étant forcément injuste et le petit forcément innocent. Tout ça a joué à plein et a donné, me semble-t-il, médiatiquement, je ne parle pas du fond du sujet, de savoir qui avait raison, qui avait tort, si la méthode était bonne ou pas, peu importe, je raisonne en technicien des médias, a donné quelque chose qui, à mon avis, était assez catastrophique. Voilà.
Très bien, merci beaucoup pour cette analyse et ce point de vue. Il est temps désormais d'écouter la salle, réactions, questions, contributions. C'est la dernière fois que vous pouvez parler, hein. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, mais peut-être êtes-vous totalement tétanisé, assommé. C'est la première fois que personne ne prend la parole. Que se passe-t-il ? Ah, allons-y, ici, merci.
Merci. Bonjour. En fait, moi je voulais...
Merci de vous présenter.
Pardon. Émilie Pourbet, je travaille au journal L'Invisible, qui est un mensuel gratuit catholique. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur de Montetti, sur l'information positive, vous avez dit que vous recherchiez les informations positives et que c'était difficile, effectivement, d'en trouver. Enfin, voilà, je pense que...
De les faire monter, surtout, de les faire exister. Ouais. Oh, je pense qu'il y a beaucoup d'informations positives, mais...
En fait, ouais. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que vous pourriez juste arrêter de tourner les photos ? Merci. Est-ce qu'il y a des informations positives ? Est-ce qu'il y a une information positive ? Nous, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée à la rédaction, parce qu'on est un journal qui essayons de donner un regard positif, si on veut, sur le monde. Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement d'informations positives pour moi, c'est plus une information qui serait porteuse d'espérance. Et est-ce que c'est... Il me semble que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que... comment dire Enfin, c'est-à-dire que même dans les événements dramatiques, puisqu'effectivement, on le voit tous les jours dans le monde, en France, autour de nous, il peut toujours y avoir une espérance. Et est-ce que ce n'est pas ça, être un journal catholique? Ce n'est pas juste chercher des informations purement positives, il y en a toujours. Mais est-ce que notre rôle de média catholique, ce n'est pas avant tout de montrer une espérance, de témoigner d'une espérance et de chercher les pépites d'espérance, parce que parfois elles sont vraiment très petites, et d'aller les chercher pour justement... Faire émerger une espérance dans le monde, quoi. Parce que c'est ça dans le monde crève, c'est pas d'être trop négatif ou trop positif, c'est d'avoir perdu l'espérance, quoi. Et je me demande s'il n'y a pas quand même une différence entre une information positive et une information porteuse d'espérance. Ça me semble que la nuance peut être importante.
Non, vous avez raison, vous avez affiné ma pensée comme j'aurais pas pu le faire. Oui, c'est certain, c'est aussi dans le traitement de l'information qui en apparence est une mauvaise nouvelle et peut, dans son traitement, dans sa manière de la relativiser, de l'interpréter, peut tourner du côté de l'espérance. C'est vrai, vous avez raison.
Les pépites d'espérance, une jolie expression. Merci. Alors, d'autres remarques, d'autres contributions, expérience. Beaucoup de choses a déjà été dit au fil de ces deux journées. Bon, bah écoutez, allez, un dernier courageux,
Maurice Page, l'agence de presse APIC. Si je cite correctement, parce que j'ai relu ça l'autre jour, c'est pas pour étaler ma culture, mais Jean XXIII avait défini la liberté du journaliste comme la liberté de chercher et de dire ce qui est vrai. Et je pense que là, il y a probablement quelque chose à creuser. Alors on peut dire, comme pense Pilate, qu'est-ce que la vérité, naturellement. Mais enfin, on a quand même ce lien entre liberté et vérité qui, à mon avis, est assez juste. Et puis, je crois que dans les critères aussi, je pense que ça ne serait peut-être pas inutile pour nous, catholiques, de quand même d'insister aussi sur le critère justice-charité. Hein, Deus caritas est aussi, c'est ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce critère-là qui compte aussi?
Justice-charité, merci. On va peut-être en rester là pour cette session. Merci à tous de vos contributions. Alors je vais donner la parole dans quelques instants à notre vénéré président, longue vie à lui, qui va tirer les conclusions de cette, qui va clore cette journée. Je voudrais juste, avant qu'il ne prenne la parole, peut-être vous livrer un sentiment tout à fait personnel après vous avoir écouté les uns et les autres. Comment vous dire ça? Mes amis me reprochent souvent d'être apocalyptique. Et je leur dis, mais non. Je crois qu'il y a une espérance, mais je crois qu'en l'occurrence, là, nous avons croisé un certain nombre de diagnostics, d'interrogations lourdes sur l'évolution de nos publics, sur les lignes de tension au sein de nos communautés, sur le déclin des institutions, sur la crise de la vérité, on l'a dit, la fin du mandat, ça a été dit par je ne sais plus qui, sur la question de la défiance. Enfin, nous sommes en train de vivre sous nos yeux... sont en train de fulminer, au sens propre, un certain nombre de bombes à mèche lente. Et je me demande si nous ne sommes pas à la veille, ou peut-être déjà dedans, une sorte de tsunami, à tout le moins technologique, si ce n'est institutionnel, anthropologique, etc. Et qu'il va être très compliqué pour nous tous, quel que soit notre métier, quel que soit notre territoire d'exercice, de surfer sur ce tsunami. Si je peux me permettre une très mauvaise analogie, j'ai l'impression que nous sommes quelque part entre un jeudi et un vendredi saint. Il va se passer des choses lourdes, compliquées. Mon voisin le disait tout à l'heure, nous n'allons pas tous survivre. Mais bon, la conviction, c'est quand même le lundi de Pâques, hein, le dimanche et le lundi de Pâques. Ce sont les femmes qui seront les premières au tombeau. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose... d'important à garder en tête, mais voilà, ça va pas se passer simplement. Et voilà, compte tenu de l'âge que j'ai, je souhaite bon courage aux jeunes générations qui vont porter tout cela. Monsieur le Président.
Alors, justement,
je l'ai dit, jusqu'au matin de Pâques. Le monsieur de la régie peut-il allumer le micro? Voilà. Voilà, merci au monsieur de la régie.
Non, en fait, Frédéric souhaitait qu'en trois petits quarts d'heure, je fasse une synthèse des débats que l'on a tous vécus durant ces trois jours. Et puis, finalement, je vais le respecter, me respecter, et je vais vous parler simplement deux minutes très rapidement. Je ne vais pas réitérer les remerciements que j'ai pu prononcer en ouverture de ces journées, même si celles et ceux que j'ai déjà remerciés le méritent amplement. Et même si je veux saluer, en votre nom à tous, le travail réalisé par Frédéric et la manière avec laquelle il nous a accompagnés pendant ces deux jours, j'ai trouvé que c'était assez remarquable et je souhaite vraiment saluer ça. Bon, c'est aussi avec l'âge qu'il a, il faut un petit peu l'accompagner, le soutenir. Et je me venge, parce que c'est moi en plus qui tiens le micro maintenant, donc je ne peux rien faire. Alors par contre, je suis sûr de ne pas me tromper, à la relecture de ces journées, en soulignant devant vous la richesse des apports spirituels, des apports intellectuels, la richesse des débats, des échanges, des confrontations, des témoignages, des idées échangées sur la manière avec laquelle nos médias peuvent être mieux présents dans la société française, la richesse des rencontres formelles dans les ateliers, dans cette salle plénière, des rencontres informelles dans la salle du déjeuner, dans des bars même, hier soir j'ai cru comprendre, des moments en tout cas très sympathiques, et puis la beauté simple de la célébration que nous avons vécue hier soir en l'église des Italiens. Bien, toutes ces richesses, toutes ces rencontres et ces débats sont la richesse, sont la raison de vivre de nos journées. Et je crois que celles que nous venons de vivre là, ces deux jours, ont été un grand cru, pour la première fois donc hébergées par une fédération élargie, la Fédération des médias catholiques. Donc après donc, ces deux jours de prise de recul et d'enrichissement, nous allons reprendre le chemin de nos entreprises, alors pas demain matin, je vous rassure, mais en tout cas dès lundi, de nos associations, de nos maisons. N'ayons pas peur de laisser ces rencontres d'Annecy irriguer notre pratique professionnelle. N'ayons pas peur de partager, pour la photo, de partager avec nos collègues, nos amis, ce que nous avons vécu. Je vous rappelle que le nouveau site de la Fédération est en ligne à partir de ce matin. Vous avez l'adresse ici et vous retrouverez dès lundi une bonne majorité, en tout cas les points saillants des débats que nous avons pu vivre ici. Merci à tous les intervenants pour leur participation, merci à tous pour votre présence active et à nous revoir. Prenez date les 22 et 23 janvier 2015 dans ces mêmes locaux. J'espère vous y revoir plus nombreux. Merci à tous et bon retour.